bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bon. C'est la bande originale, soyez les bienvenus. Bravo. Avec Elena Kadoboudadi, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Tom Villa,
bonjour
Guillermo Guillaume,
bonjour
tout à l'heure Tanguy Passio,
oh.
Et nos invités
sont
Bertrand Blier, Christian Clavier, Gérard Depardieu.
Oh, 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 oh.
Bonjour.
On est obligé de vous le dire, hein, ça fait quand même quelque chose de vous avoir tous les trois en même temps. Ça fait plaisir.
Voilà. Ça fait trucage.
Ça fait Mélenchon.
Ça fait plaisir. En tout cas, et tout ça, c'est grâce à vous, Bertrand Blier, qui avait réuni Christian Clavier et Gérard Depardieu. Ils se sont déjà réunis de nombreuses fois au cinéma, 7 fois, si j'ai bonne mémoire, mais jamais devant votre caméra. Comment est venue l'idée ?
C'est une idée qui est venue par... Il y a eu des bonnes opportunités.
Des bonnes opportunités.
Des bonnes opportunités.
Il fallait un alignement un alignement de planètes.
Voilà, entre Clavier et moi, et Gérard, etc. Donc il a fallu être pas trop con sur ce coup-là, de manière à les rassembler, et leur dire, voilà, on fait le film.
D'accord. Et une fois que vous leur avez dit on fait le film, ils ont demandé à lire le scénario, parce que tout est basé sur le scénario. Il y a un scénario.
Ils n'ont pas trop demandé à lire, ils ont dit on fait le film, et voilà.
Ouais, très bien, ils ont confiance. C'est bien d'avoir confiance. Tout va bien, Christian, Clavier ?
Très bien.
Gérard également, vous êtes un peu chez vous ici.
Pardon, là, un petit torticolis qui m'a gêné, simplement.
Mais tu l'as eu comment, ce torticolis ?
Question de Bertrand, comment vous l'avez-vous eu, ce torticolis ?
Un courant d'air.
Courant d'air, là, dans ton cinéma, là. C'est un filet de courant d'air, là, je l'ai chopé direct.
Et puis dans ces avant-premières, tu vois toujours des gens que t'as pas envie de voir, ça te
colle. Pas du tout.
Ça te colle.
Faut tourner la tête très vite.
Faut tourner la tête très vite, tout ça est déplaisant. T'as des gens dans le dos, tu sais pas très bien qui c'est, c'est embêtant.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a soufflé sur le cou aussi.
Oui, c'est ça.
Bon, c'est quelqu'un mort, hein, parce que quand ça passe froid comme ça.
Ça empêche de faire plein de choses. C'est bête, la torticolis.
Des questions concernant nos invités pour voir si vous avez suivi un tout petit peu leur carrière. Car qu'apprend Bertrand Blier dans une interview de son papa sur Louis Jouvet ?
Qu'il était là quand il était tout petit, qu'il y a un lien familial.
Oui, il y a un lien familial.
Qu'il est son vrai père.
Il était sur ses genoux.
Il n'est pas son vrai père.
Son parrain.
Son parrain, exactement.
Parrain, oui. Merci. Exact.
Vous apprenez dans une interview que Louis Jouvet est votre parrain, vous ne le saviez pas.
Non, je ne l'apprends pas dans une interview. Mon père me disait tout le temps, tu sais que ton Jouvet est ton parrain. Et moi, je ne le croyais pas parce qu'il était quand même assez bourreur de mou. Je me disais, il est en train de m'entuber.
Pas mal la représentation paternelle, ouais.
Après qu'il soit disparu, quand il est parti, j'ai écrit une lettre à l'église d'Auteuil où j'ai fait mon catéchisme, et je leur ai demandé s'ils avaient des archives et s'ils pouvaient me retrouver le nom de mon parrain. Ils m'ont répondu dans 48 heures, monsieur Louis Jouvet, parrain, n'a pas pu venir à la cérémonie, mais s'est fait représenter par monsieur Fouque, qui était un oncle. Voilà, mais il est parrain, officiellement.
Officiellement, il est parrain, d'accord.
Et quand je rencontre Lucchini, je lui dis toujours, fais pas chier avec Jouvet, parce que c'est mon parrain.
Et vous-même, vous êtes parrain de quelqu'un, d'un...
Je suis parrain de la fille de Gérard.
Voilà, de Roxane.
Très bien. Qui Christian Clavier a-t-il comme camarade de promotion, a-t-il eu comme camarade de
François
promotion
François Hollande.
Oh là. Ah oui, d'accord.
Bah oui.
Comme une évidence.
Oui.
Mais pas à l'armée. Hein.
Bah oui, on se doute bien.
Sciences Po. Mais... Vous avez gardé des rapports de camarades ?
Pas du tout.
Aucun ?
Aucun.
D'accord.
Et... Donc il y en a un qui a réussi et vous lui parlez, vous lui parlez toujours ?
Non, il a bien réussi, oui.
Et Sciences Po, vous avez gardé quoi ?
Très mauvais souvenir, je suis terriblement embêté. Je suis resté 6 mois, moi j'ai fait ça parce que ça me permettait d'avoir une carte d'étudiant.
Et ça ne sert même pas à jouer le rôle d'un politicien,
si, je peux jouer parfaitement. J'ai tout à fait la carrure pour ça, plutôt même plus que lui d'ailleurs. Mais en revanche, j'ai pas suivi beaucoup. Ah là, c'est vrai.
Si je vous
donnerais le sentiment d'être plus compétent.
D'accord. Si je vous dis... Chapouf, à quoi cela fait penser par rapport à Gérard Depardieu ? Chapouf.
Première fois qu'il a tué un chat ?
Non.
Une onomatopée habituelle ?
Non.
Ça fait chapouf.
J'adore les chats, Gérard.
C'est un personnage.
Un chapouf, c'est un concept.
C'est un très gros chat.
D'un chat pour s'asseoir.
Quel rapport entre chapouf et Gérard Depardieu?
Non, c'est un pouf, c'est un énorme pouf.
C'est un surnom qu'on lui donnait?
Non, c'est pas un surnom.
C'est un surnom qui vient de son enfance.
Non, c'est même Bertrand et Christian, vous ne savez pas.
On ne sait pas.
Je crois que c'est un meuble, moi. Je pense que
c'est un gros chapouf.
Non, ne dites rien.
Ah, mais je dis rien.
Non,
c'est vrai.
C'est pas un surnom qu'il donnait à quelqu'un d'autre?
Je ne pense pas, non. Non, non.
Un petit indice?
J'adore. Non, mais j'adore l'idée que personne ne le sache.
Un petit indice?
Rien du tout. Non, vous galérez là tout seul.
Ça se mange?
Ça se mange pas.
C'est le nom d'une société de production?
C'est un.
Chapouf?
C'est un.
Chapouf propre, présent.
C'est le nom d'un plat? D'un mets? D'une invention? D'une recette de cuisine perso? Donne-le-moi le point.
Non, un indice, Nagui. Je peux pas donner d'indice parce que même moi, je ne sais pas pourquoi. Il a chapouf.
C'est pas la première fois
que Nagui parle de quelque chose qu'il ne connaît pas.
Pour dire la colère, c'est une interjection personnelle qu'il a créée.
Non, c'est une philosophie de la vie.
Ah.
C'est une philosophie de la vie. Il y a un petit côté chat et un petit côté pouf.
Attends, laisse passer.
Je suis serein.
C'est une sorte de mantra. Je suis chapouf.
Oui, il est chapouf.
Je suis chapouf.
Oui, chapouf, mais c'est autre chose. Plutôt pouf, parfois. Voilà. Ça s'arrête.
Ouais, ça s'arrête, vous pouvez y aller.
Non, c'est un tatouage, c'est le prénom des enfants. Chat, pouf, c'était Guillaume. Et chat, c'était la Julie. C'est le prénom qui sont tatoués sur une chose.
À l'intérieur, au creux de votre bras, vous avez le tatouage écrit chapouf.
C'était un petit oiseau qui portait une pensée. Voilà.
Mais je suis particulièrement ému que Hébert Tremblay et Christian Clavier ne le sachent pas, alors qu'ils sont plutôt intimes, qu'ils vous connaissent bien.
Oui, mais surtout qu'ils les planquaient beaucoup, les tatouages. On les planque tout le temps, puis jamais personne ne voit. C'est peut-être mal écrit. Puis j'ai fait ça il y a très longtemps.
Enfant avec qui se retrouve Bertrand Blier un jour dans l'ascenseur, et cette personne lui dit la vérité, les quatre vérités sur son papa.
Gabin.
Exactement. Exactement. Enfin, c'est Gabin et Audiard qui sont dans un ascenseur.
Il y avait des ascenseurs à cette époque-là où il fallait pas se faire gauler par Gabin, parce qu'il y avait Gabin, Audiard et Lino Ventura dans le même ascenseur. Et tous les trois me disaient, est-ce que ton père est toujours aussi con? Alors je disais oui, apparemment oui.
Qu'est-ce que... Mais vous aviez assez de recul enfant pour ne pas pleurer à ce genre d'interjection?
Ah non, c'est mon éducation.
Oui.
J'ai entendu ça toute ma vie.
Il faut se faire une carapace quand même, il faut se protéger.
Mais mon père m'a éduqué de manière à ce que je puisse subir ce genre de truc.
Très bien, oui, le mot est subir. Qu'est-ce que Christian Clavier a de commun avec Bourvil?
La date de naissance?
Apparemment, non, mais je t'en prie.
Non, mais le jour et le mois. Moi, je vais partir.
Restez.
Non, mais c'est vrai, parce que c'est quand même désagréable. Non, mais c'est pas grave.
La date de naissance, c'est pas l'année.
C'est avant
que c'est
le jour. Mais bien entendu.
Merci, Gérard.
Non. Mais bien sûr, le jour.
Il y aura toujours Gérard pour protéger les
gens.
Non, ce n'est pas la naissance. Qu'ont-ils de commun?
J'ai peur.
La ville.
Non. C'est professionnel.
C'est professionnel.
Ah, même vous ne savez pas.
Le nombre de films tournés.
Le vélo.
Alors, non, ça a un rapport avec le cinéma.
Le fait d'être acteur et producteur.
Ils chantent tous les deux.
Ah non, pas du tout, moi je ne chante pas du tout.
Ils sont croisés.
Bourvil non plus.
Alors écoutez bien, Christian Clavier, avec Bourvil, vous êtes les deux seuls acteurs à avoir tourné dans 4 films ayant dépassé 10 millions d'entrées. Non, mais me prenez pas ça, genre, trop bien.
Non, mais c'est très sympa.
C'est classe.
Vous
vous rendez compte?
Oui, non, c'est formidable.
Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir, c'est dingue, hein?
Non, mais c'est pas que ça me fait pas plaisir, mais c'est que moi, mon éducation m'empêche de bondir de joie en disant c'est formidable. Non, je reste élégant là-dessus.
Sous-entendu, on l'est moins.
Et là, d'un coup, il vient de tout ramasser.
Parce qu'il a quand même fait un petit mouvement comme ça dans le fauteuil. Ça, c'est la date de naissance. C'est
ce que t'apprends à Sciences Po. À Sciences Po, quand tu es content de toi, tu te remets dans le fauteuil.
C'est dommage qu'au départ, on parle d'une date de naissance alors que c'était quelque chose de tout à fait professionnel. Unpleasant.
Et encore, c'est que de le début.
Oh, mais alors là, c'est mal barré.
Gérard Depardieu a été apprenti pendant uniquement 2 jours, mais de quelle profession?
Maçon.
Une profession que l'on retrouve dans le film
cuisinier
qu'on voit exceptionnel
dans le film.
Ouais.
Boulanger.
Exactement. Deux jours seulement apprenti boulanger.
T'as été boulanger?
C'est dommage.
J'étais, oui, boulanger.
Tu ne l'as jamais
dit. Faisais les croissants.
Non, je faisais rien, je livrais, mais je donnais tout au clochard. Il n'y avait pas le compte dans les hôtels. Et on me dit, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je dis, rien. Et je donnais à tous ces clochards de la ville de Château, il y en avait un paquet. Et puis, donc, voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas le compte des gens dans les hôtels qui réclamaient leur compte.
Et on retrouve cette scène dans le film, c'est-à-dire oui. Le boulanger qui donne un
croissant,
un café, à quelqu'un qui est dans le besoin.
Un Farida Fawad, ouais.
La prise, ouais.
Exactement. Et puis, pour terminer d'ailleurs sur et revenir sur le film dont nous allons parler, un objet particulier revient souvent dans les films de Bertrand Blier.
Ah, le caddie.
Exactement. Le caddie, puisque c'est avec ce caddie que vous ouvrez. C'est un hommage aux valseuses. C'est une référence.
Le premier caddie, c'est dans les valseuses, où on pousse Gérard qui est à l'intérieur du caddie.
Avec le doigt pointé.
Voilà. C'est Patrick qui pousse. Et puis après, il y a d'autres caddies. Mais je sais, tout le temps, aujourd'hui, tout le monde me pose la question.
Ouais.
Oui, parce qu'on cherche des sens. Mais c'est une époque de sens.
Il n'y a pas de sens. Le caddie,
il y a un symbole.
Ou de symbole. On cherche beaucoup à expliquer. Le caddie,
ça roule.
Voilà. Je fais des provisions.
Un truc pour mettre une caméra, ça évoque le cinéma. Un caddie, c'est comme un travelling.
Oui. Ouais, puis on peut mettre de tout dans un caddie.
Oui,
on peut mettre des potes, on peut mettre de la bouffe.
Intéressante.
Ouais, on peut mettre des acteurs, on peut mettre n'importe quoi.
D'ailleurs, ça se vole. Il y a beaucoup de gens qui les apportent. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs.
Bah si, parce que comme ça, il n'y a pas besoin de porter les courses.
Oui,
enfin, pour porter le caddie.
Pas besoin de valise.
C'est l'histoire donc d'un type qui va trop vite
conversation.
Et d'un gros qui est trop lent.
Non, d'un petit qui va trop vite et d'un gros qui est trop lent. Mais ça, c'est lui qui a dit ça, Bertrand.
Voilà, c'est la formule employée par vous, Bertrand Blier, pour ce film qui raconte deux trajets, deux destins croisés dans tous les sens du terme. D'ailleurs, ils se croisent sans trop savoir pourquoi leurs vies vont faire qu'ils ont un bout de chemin à parcourir ensemble. Et puis leur destin va également se croiser dans l'échelle sociale.
Oui, exact. C'est un bon résumé.
Dieu merci. Le film n'est pas ça, parce que là, sinon, tu écoutes ça, tu fais... Bon, non, allez, mais...
Je lance.
Oui, bah, justement, c'est lance.
C'est un film sur deux mecs qui ne se connaissent pas et qui font connaissance et qui s'entendent très mal.
Ah non, il y a une amitié quand même.
Ah mais vous n'êtes pas d'accord sur le film.
Il y a quand même une amitié. Il y a quand même une amitié.
Non,
moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça.
Non, mais puis, j'ai dans la mesure où ils se disent tout, la vérité, voilà, c'est tout.
Oui. Enfin, c'est l'histoire de deux mecs.
Voilà. Ça me rappelle Coluche.
Souvent, j'ai fait des films avec trois personnes, mais là, il n'y en a que deux.
Ouais, mais ça va un peu plus loin. C'est l'histoire de deux mecs qui ont une partition à jouer, mais ils ne la connaissent pas, cette partition.
Ils sont confrontés à des gens qui écrivent des scénarios et qui distribuent des pages dans les rues pour que tout le monde soit au boulot.
Alors, n'en déplaise à Christian Clavier, on cherche toujours des symboles, évidemment, dans ce genre de...
Bien sûr, puis on est à France Inter, c'est
normal. De situation, mais non.
Qui est déjà un symbole, en soi. Je ne sais pas de quoi, mais c'est un symbole. Voilà, ça, c'est déjà pas mal. Donc, allons-y.
C'est de se dire, est-ce que notre vie est écrite? Est-ce que le destin fait qu'on ne mène pas forcément la vie que l'on veut mener, mais tout est écrit d'avance?
Il y a pas mal de choses qui sont écrites, je pense. C'est le sujet du film. Mais on peut corriger. Là, avec un stylo, on corrige.
Corrige le mektoub.
On peut changer les événements.
Vous croyez au destin?
Plus ou moins, un petit peu, oui. Mais c'est écrit, c'est la même idée. Il y a des trucs écrits, parce que ça dépend où on est, avec qui sont les parents, etc. Mais voilà, et puis après, on se démerde.
Alors, c'est écrit, oui, vous dites que l'on peut corriger son destin.
Non, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec ça.
Alors, question
attends,
clavier.
Là, vraiment...
Il y a des trucs qui sont... T'as une
non, c'est des
de
mecs
données.
À qui on donne des pages en disant qu'il faut faire quelque chose, ils n'ont pas envie. C'est-à-dire que le destin...
Y compris de tuer quelqu'un.
Vous ne croyez au destin que dans la mesure où vous dites que ça va être un bon destin. Si c'est un mauvais, vous n'avez qu'une envie, c'est de ne pas le suivre.
Mais bien sûr.
Donc, bon, voilà. C'est assez fin, ce que je viens de dire.
Oui, hein,
et même relativement profond. Au niveau du symbole, en tout cas, je suis...
Ah, bah,
oui, sauf que dans le film, il y a aussi un personnage qui n'a pas de texte et qui veut vraiment un texte, parce qu'elle veut une place dans l'histoire, une
elle
place donc dans la société, elle veut un rôle. Parce que c'est aussi ça l'intérêt de ce film, c'est le parallèle qu'il y a entre la vie, la métaphore qu'il y a aussi avec le cinéma, c'est se dire que quand on est dépourvu de partition, on est rien,
oui.
Et on veut exister.
Mais
aussi.
Je pense que là, le personnage de Taupin, puisque vous faites allusion à Taupin, donc je joue, Finalement, s'il avait des pages, il ne les lirait pas. Un peu comme moi. Et il attend que l'autre lui lise.
Voilà.
Bon, voilà, c'est tout. Et c'est vrai que...
Et moi, j'essaie de le planter un peu en lui lisant.
Il essaie de me planter, c'est sûr, mais...
Et le personnage de Farida Rawaj aussi, elle n'a vraiment pas du tout de texte. Et elle cherche à incarner quelque chose.
Elle cherche à nous coller, surtout.
Aussi.
Elle veut rentrer dans l'histoire.
Elle veut rentrer dans l'histoire, oui. C'est
elle n'a pas eu d'histoire jusqu'à présent, elle en veut une. Elle se dit, c'est le moment ou jamais. Donc je m'avance et je fais la malheureuse et je vais les émouvoir et ils vont me donner une scène.
Il y en a qui lui donnent un croissant et puis il y en a l'autre qui lui donne une histoire.
Et puis nous, on n'y croit pas tellement.
Non.
Ouais. On reste quand même assez...
On fuit.
On est assez réactifs, nous, au destin.
Oui, même un tout petit peu rebelle aussi vis-à-vis des auteurs, parce qu'il faut les trouver aussi, ceux qui écrivent ces pages, ceux qui les distribuent.
C'est quand même des salopards. Hein. Ouais. Oui. L'auteur de base est un fumier. Donc.
C'est Alex Lutz hein, qui joue l'auteur.
Voilà, qui joue bien.
Il a eu un César.
Il est très clair. Il a eu un César. Donc il est rentré dans le...
Voilà. Il est clair. Voilà, il a une
il
carte.
Il est rentré dans le quoi, Christian?
Il est rentré dans le destin. Il a un destin tout tracé, maintenant, ce qui est très, très emmerdant.
Et Audrey Dana aussi, qui est là, qui incarne une sorte de pouvoir un peu totalitaire qui régit la vie.
Elle dirige tout.
Elle dirige tout, elle grand manie
tout. Ça reste quand même, comme me l'a dit Bertrand au départ, sinon moi je l'aurais fait une grosse, grosse connerie.
Oui et non, parce qu'il y a, aussi une part de poésie. On ne sait même pas d'ailleurs si vous êtes vivant, si vous êtes des fantômes, si vous.
C'est mieux.
Si on est dans un rêve. Dans ce truc-là.
Oui.
Il faut se laisser porter, quoi.
Alors, on peut se laisser porter, mais on peut aussi. Ça peut donner à réfléchir.
Oui, ben ça, n'hésitez pas.
ça changera.
N'hésitez pas, les enfants, n'hésitez pas. C'est les gars qui réfléchissent énormément. Tous les matins, ici, ils réfléchissent à mort.
La scène avec Alexandra Lamy est une scène.
Il n'y a pas besoin de réfléchir, elle est une scène magnifique, émouvante, elle est extraordinaire dedans, il n'y a pas besoin de réfléchir.
Ah si, elle donne à réfléchir.
Ah, vous pensez
oui, oui, sur le personnage de Foster, qui est-il
Foster, c'est moi, donc c'est automatiquement bien.
Je retrouve votre côté Bourville, là.
Vous croyez
10 millions d'entrées, oui.
Facilement.
Tom Villa, ça va être forcément un succès, une telle affiche,
qu'on
un tel casting.
Oui, ça sent le
voit exceptionnel.
Alors, ce matin, j'ai décidé de faire un petit peu différemment d'habitude. Je suis retombé sur une interview de Bertrand Blier qui disait, je cite, « La promo, ça sert à rien, tout le monde l'a fait, et pourtant, il y a des films qui marchent pas. » Et vous citiez aussi Jean Gabin qui, lui, disait « Je vois pas pourquoi je viendrais gratuitement alors que les gens payent pour me voir au cinéma. »
Donc, si vous voulez en parler, d'ailleurs.
Non, mais c'est vrai.
Je voulais justement... S'il y a une possibilité que quelqu'un m'écoute à un niveau supérieur,
Oui, il y aura un petit effet.
Vous allez être déçu par le cachet.
Donc, du coup, comme la promo, ça sert à rien, je me suis dit « Tentons une chronique dans le sillage du film. » Vous l'avez dit il y a deux minutes, Christian, c'est l'histoire de deux mecs à qui on donne des pages et qui en veulent pas. Alors, tout le monde prend son petit texte. Voilà, tenez, Christian, ça, c'est pour vous. Tenez, Gérard, hop. Oui. C'est pour vous. Voilà, donc c'est facile, on est dans une petite pièce. Il n'y a pas de piège, Christian, vous jouez le rôle de Christian, Gérard, vous jouez le rôle de Gérard. Le contexte, on est trois dans un studio de radio. Christian et Gérard sont en promotion d'un film qu'ils aiment beaucoup, et ils découvrent le texte en même temps qu'ils le lisent. On y va, 3-4.
Tu veux que je dise ça?
En tout cas, c'est écrit.
Parce que je sors d'un film où Bertrand Blier est un grand, grand dialoguiste. Pardonnez-moi, mais c'est assez pauvre. Il y a marqué Christian, 2 points. Attendez, c'est pas du tout prévu dans le scénario de la promo, ce que vous nous demandez.
Ah oui, mais c'était pas prévu, mais c'est ça. Il
faut pas trop réfléchir.
Excusez-moi, mais vous avez un scénario, vous?
Oui, alors non, attendez, c'est trop tôt, vous avez sauté une
fois. Ah bah non,
mais c'est ça le problème de ces personnages, c'est qu'ils disent pas.
Mais oui,
mais tu me donnes pas les passes dans l'or.
Ils vont à France Inter se faire interviewer par Nagui. Mais pourquoi Nagui?
Non, Nagui.
Il y a une faute de frappe.
Qui jouit Nagui.
Bon, alors à ce moment-là, faisons sans musique, je reprends. Séquence 4, intérieur jour. Christian dit tout le bien qu'il pense du film.
C'est où?
Alors attendez, bougez pas.
C'est bientôt fini l'émission.
Non mais elle est où la séquence 4?
Tu vois ce qu'il avait publié. Tu vois ce qu'il avait publié. C'est un enfer pour lui, parce qu'on n'a jamais voulu dire les
trucs. Elle est où? Vous allez me répondre? Non, c'est toi.
Autant je le parle, en revanche, je lis très mal le mandarin.
Mais oui, mais forcément, si vous avez versé les répliques, Christian.
Quelqu'un veut du saucisson?
Regardez, on va reprendre depuis le début. On va reprendre depuis le début, ça va bien se passer.
Regardez,
on va reprendre d'ici.
Il n'y a pas de numéro. Ah oui,
il y a des tout petits numéros.
Regardez,
les numéros, moi, j'ai pas mes lunettes, je peux pas les voir.
C'est vrai?
Bah oui,
ok.
C'est la 3, 2, 2.
On y va.
Donc, alors, je disais.
C'est parfois pas mal de commencer par la fin, parce que c'est moins chiant.
Oui, attends, mais c'est pas un manga, donc du coup, ça va être très compliqué.
Un manga. Donc... c'est incroyablement culturel. C'est vrai que moi, on m'avait dit, tu vas dans un truc qui va pas te ressembler beaucoup.
Voilà. Donc, je disais, c'était pas prévu ce qu'on fait actuellement.
Oui, hein,
ça s'entend.
C'était pas prévu.
Ça s'entend. Mais c'est ça qui va faire un petit peu le sel de votre venue dans l'émission. Voilà, tout simplement.
D'accord, le sel. Et moi, je dis un truc là.
Oui, oui.
Mais moi, sur le papier, je suis pas contre.
Oui.
Et je suis pas contre quoi?
Bah, le fait de faire ce qu'on fait en ce moment.
Non, je suis pas sans sens.
Mais
il fallait le préciser avant. Moi, j'ai rien de tout ça.
Mais non, attendez, c'est pas du tout prévu dans le scénario de la promo.
Ah oui, mais c'est ce que je vous disais.
Tu l'as mis où, toi?
Mais moi, c'est là le truc.
Voilà, c'est bon.
Regardez, attendez, on va reprendre. Il y a marqué.
Mais moi, sur le papier. On peut demander à peut-être à Bertrand une direction d'acteur.
Si, mais moi, sur le papier, je suis pas contre, mais il fallait préciser avant. Moi, j'ai rien. Tout ça dans mon scénario, c'est ça que
tu dis. Regardez, il y a marqué Christian Clavier, d'où en plus de sa
non,
présence...
Non, il y a marqué Christian.
Oui,
ça peut
moi.
Être n'importe qui.
Ça peut être n'importe qui.
Il y a énormément de Christian.
Effectivement.
Il y avait marqué Christian Clavier, là je veux bien.
Ah.
Mais là, Christian, on ne sait pas trop.
Alors, regardez, il y a marqué Christian, doit en plus de sa présence très agréable, faire un bout de la chronique avec l'humoriste.
Avec l'humoriste, voilà. D'accord. Voilà. C'est vous l'humoriste?
Oui, alors, là... Il s'avère que bon, le mec est un RTT, du coup je l'ai remplacé.
Moi j'en ai rencontré des humoristes, mais alors là, mes enfants, là on est sur le ponton. On a décroché la timbale, c'est assez remarquable.
Donc voilà, alors du coup, moi ce que je vous propose c'est qu'on peut féliciter.
On va se serrer là. Et puis on va laisser tomber la chronique.
On va féliciter Bertrand Blier.
Merci infiniment.
On va féliciter le travail de Bertrand Blier. Ce qu'on peut dire, c'est que Convoi Exceptionnel, c'est comme ça, mais en mieux. C'est pas de la fausse modestie, c'est juste de la lucidité parce que. Effectivement, quand Guillaume Musso il est face à Michel Houellebecq, il dit pas, oh, je vais faire un livre comme vous.
Allez, quelqu'un bonne émission, veut du saucisson.
Voilà, merci. Merci
Tamina. Et courageux.
Maggie, la bande originale.
Très courageux, mais c'est un moment.
C'est marrant parce que
c'est un moment.
J'avais prévu ça, mais pas comme ça. Mais c'était ça. Hein. C'était exactement ce qui s'est passé, mais pas comme ça.
Parce que dans le fond, nous sommes quand même des mauvaises bêtes.
Voilà.
Bertrand Blier. Comment sont-ils sur un plateau, justement, à être dirigés? Est-ce qu'ils sont comme ça, ou est-ce que ces monstres sacrés du cinéma et de la comédie sont finalement des bons camarades?
Parfois, ils sont comme ça.
Ils peuvent l'être.
Ils peuvent être comme ça, mais brièvement. Parce que quand ils voient ma gueule, ils se disent, bon, on va arrêter nos conneries, parce qu'il va nous buter, ils pensent que je vais les buter.
Ah, ils vous craignent, vraiment?
Non, mais c'est dangereux, un mec comme ça, c'est dangereux.
Vous avez peur qu'ils se cassent? Ou pas qu'ils se cassent, ils s'en aillent?
Non, c'est des bons gars. Ben Gérard, je le connais depuis toujours. Que des brumes, on a fait, non?
Oui.
C'était la jolie fille.
C'était bien avec Michel Morgan.
Avec Michel Morgan, c'était bien.
C'était
très bien.
Et donc, non, on se connaît bien, donc on a des problèmes de couple, quoi. On peut s'engueuler comme dans les couples, mais enfin, ça avance quand même vers un objectif qui est de présenter au public quelque chose.
Vous avez en fait tourné 9 films ensemble.
Avec Gérard.
Avec Gérard, oui.
Oui, c'est lui, là.
Oui, Gérard Depardieu. Il faut rajouter le nom de famille. Christian a raison. Il y a beaucoup de Gérard. Je vais rajouter.
Bah, c'est des prénoms assez courants de notre époque.
Donc, de votre génération, Gérard, même.
Luc,
de
votre génération.
Vous ne soyez pas désobligés, on
est. Donc, avec Gérard Depardieu, vous avez tourné 9 films. Et c'est lors d'un dîner avec Catherine Fraud que vous avez échangé l'idée de tourner avec Christian Clavier.
C'est-à-dire que Catherine Fraud, qui est une amie de la famille, vient dîner un soir.
Il lui dit absolument de faire tourner Henri Pierre.
Et je lui dis, qu'est-ce que tu fous en ce moment? Elle me dit, je tourne un film avec Christian Clavier. Ah, je lui dis, il doit être chiant celui-là. Elle me dit, non, pas du tout, il est très sympa. Je lui dis, bon, alors dis-lui que j'aimerais beaucoup faire un film avec lui. Donc le lendemain, elle va au tournage et elle dit à Christian, j'ai vu Blier, il aimerait bien faire un film avec lui. Et Clavier, à ce moment-là, se démerde,
au début,
je sais pas.
J'ai pensé que c'était son père dont elle parlait. Mais après, j'ai compris que c'était lui.
Et donc après, il s'est démerdé pour aller voir le producteur, qui était mon producteur, etc. Enfin, il y a eu une espèce de...
C'était Momo qu'elle tournait à ce moment-là.
Momo, c'est ça.
Voilà.
Et donc, voilà. Et donc, on s'est retrouvés, Christian et moi, dans un restaurant, en se disant, on va faire un film avec 2 mecs. Et Christian m'a posé la question, il m'a dit, c'est qui l'autre? Alors, on a échangé quelques noms, et puis au bout d'un moment... On a échangé des noms que je ne citerai pas. Et au bout d'un moment, Christian m'a regardé avec des bons yeux. Et il m'a dit, mais pourquoi on ne prendrait pas le meilleur, c'est-à-dire Gérard? On l'a pris.
Voilà. Et vous dites que Gérard ne sait pas, c'est la question que je vous pose, Gérard Depardieu, vous ne savez pas dire non à Bertrand Blier quand il vous propose un film.
C'est pas la peine de dire non. De toute façon, moi je
dis... Ça dépend pas de l'histoire, ça dépend pas
non,
de...
Non, avec Bertrand, je dis jamais non. Il y a toujours des choses surprenantes. Et aussi, avec Christian, quand j'ai appris que c'était avec Christian, je lui tiens un peu une joie, je vais pas la laisser passer. Parce qu'il y a véritablement une vraie joie, une joie réelle avec Christian, où je le devine, il me devine. Et puis, quand on se devine, ben, ça n'arrête pas, quoi. C'est-à-dire que l'un va dans l'autre.
Et
tout bien et tout honneur, et torticolis. Et non, mais c'est parfait d'être comme ça, d'avoir quelqu'un qui n'est pas seulement un acteur, mais qui est un esprit en même temps, et qui est surtout d'une rapidité extraordinaire. D'autant plus que moi, les acteurs m'ennuient un petit peu, bien que je les respecte. Mais avec lui, c'est magnifique, on est bien.
Parce que je cherchais à vous dire
ça avec Fabrice, lui qui dit qu'il est un acteur, mais je pourrais pas. Si j'ai vu dans Chabert, il était très bien parce qu'il avait un peu peur. Il faisait le notaire. C'est un rôle tout à fait. C'est pas une composition. C'est très bien pour lui. Mais c'est vrai que je l'ai connu chez. Non, je l'ai même pas vu chez Jean-Laurent Cochet. Mais je l'ai vu dans Robert. Il y avait à côté Ange Blond, comme ça, magnifique. Alors que, bon. Je me vois pas avec Fabrice échanger quelques répliques. Alors qu'avec Christian, qui n'est vraiment pas qu'un acteur, c'est quelque chose d'autre. Et puis, il a vécu beaucoup de choses. Ne serait-ce que l'équipe du Splendide, parce que c'est pas facile d'avoir une équipe, surtout quand on a Julio, quand on a Michel Blanc, qui est un être complètement hypochondriaque et aussi plein de charme. D'ailleurs, on l'a vu, t'as vu, dans le buffet
froid. On l'a vu de près.
De près, oui, de près. Mais avec Christian, c'est bien sûr, c'est un bonus pour moi.
Vous cherchez à vous surprendre encore quand vous jouez ensemble? C'est la septième ou huitième fois que vous...
Non, on s'écoute, je regarde.
On s'écoute.
Je regarde, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment.
Le seul écueil, qui est une merveille, ce sont les fous rires. Quoi. C'est-à-dire que,
oui.
C'est-à-dire qu'on est toujours à la limite.
Mais pardon, mais des comédiens qui s'écoutent et qui se plongent dans le regard l'un de l'autre...
A priori, c'est le métier de comédien.
C'est le métier de comédien, ça devrait être le cas pour tout le temps, partout.
Oui, c'est vrai. C'est très bien.
Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus
Il y a ça qu'on ne trouve pas forcément toujours. Peut-être il y a une espèce de tendance en ce moment. Mais peut-être parce qu'il y a beaucoup de comédiens ou de comédiennes qui ont fait beaucoup de one-man show. Alors, ils ont l'habitude de jouer tout seuls. Ils ont le sentiment qu'en fait, on ne joue bien que quand on parle.
Puis surtout, ils sont animés par la peur. Et c'est vrai qu'ils jouent bien quand on parle. Mais il y a beaucoup de peur, de crainte, de pas exister. Et chez Christian, il n'y a pas ça du tout.
Alors ça tient savoir écouter quelqu'un. Ça tient à quoi?
Bah c'est d'être dedans, quoi. C'est de pas avoir peur aussi.
Pas avoir peur d'attendre.
Vous dites ne pas avoir peur. Alors ne pas avoir peur, vous cherchez aussi à impressionner. Vous avez dit dans une interview que vous ne vouliez pas rencontrer.
Mais ça c'était pour le bon Dieu, parce que je pensais que ça serait bien de ne pas rencontrer les gens, parce qu'ils allaient avoir les jetons et que donc
C'était vous.
Probablement, c'est ce que dit Bertrand, il faut toujours être de mauvaise humeur, donc ils ont dit il va être de mauvaise humeur, donc j'ai accentué cette mauvaise humeur de manière un peu artificielle, quand on m'a dit il aimerait beaucoup dîner avec toi ou déjeuner avec toi, je dis moi pas du tout.
Et vous vous rendez compte que ça donne, chez Bertrand Blier, la question à Catherine Fro, il doit être chiant sur le plateau, Christian Clavier.
Mais c'est parce qu'elle lui a dit oui, que j'étais chiant, qu'il a eu envie de tourner avec moi.
Non, c'est faux, elle a dit non, au contraire, vous étiez sympa, et donc là il a eu envie. Vous vous rendez compte que vous pouvez avoir cette image, et peut-être vous seriez passé à côté de la rencontre avec Bertrand Blier si personne ne lui avait dit que vous étiez sympa sur un plateau.
Oui, mais on va pas regretter ce qui n'est pas arrivé.
Non, mais ça m'est arrivé de tourner avec des acteurs dont on m'avait dit qu'ils étaient chiants. Oui. J'ai tourné quand même.
Mais si vous êtes posé la question, c'est que vous aviez un doute sur Christian ou une envie
non,
sur Christian?
Non, c'est une question automatique. C'est bonjour, comment ça va, il est chiant. Enfin, voilà, bon.
Et merci d'être avec nous chez Nagui. Alors... Ça s'appelle Convoi exceptionnel et c'est vraiment, ça porte bien son nom, comme vous pouvez le constater.
Oui, c'est une ironie de Bertrand.
Voilà.
C'est un convoi de gros.
Et pourtant, j'ai lu que le film avait été difficile à monter.
Tous les films sont difficiles.
Oui, mais alors quand on aligne Bertrand Blier à la réalisation, Christian Clavier et Gérard Depardieu,
quand... Et pas uniquement, parce qu'il y a, non, y a tous les autres,
oui,
comédiens aussi.
Tout le reste, mais déjà, on a quand même deux grosses têtes d'affiche. Mmh. Comment on peut expliquer que le film peine à être monté? Comment vous l'expliquez?
Je ne sais pas qui a raconté qu'on avait eu du mal à le monter.
Si, c'était la vérité.
Il y a toujours un peu de patinage. Oui. Il y a toujours un mois ou deux. Avant d'avoir le feu vert, il y a toujours un mois ou deux où ça...
Non, mais t'en as eu beaucoup, voilà. Entre les bruits des glaçons jusqu'à là, le convoi exceptionnel. Il y a beaucoup de choses qui sont... Et donc, c'est vrai que ce métier a changé, que la production, que l'argent a changé, qu'il n'y a plus de producteurs, qu'il y a des gens qui se disent producteurs, mais qui prennent un budget et qui sont simplement des directeurs de production, des producteurs
des gestionnaires. Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a une merde incommensurable là-dedans, d'autant plus qu'il n'y a plus de distributeurs. Les distributeurs, ça devient des plateformes comme Netflix, Amazon, Molotov. Il n'y a que ça, iTunes. Je dis pas iTunes, il y a iPrime. T'as plein de choses comme ça qu'on trouve partout et qui enlève, il y a la distribution. À partir du moment où
on retrouve le caddie de Bertrand Blier. C'est-à-dire, voilà, que maintenant, ce sont des plateformes avec des caddies, quoi. Et dedans, il y a un stock.
Comment il fait le cinéma? C'est à contre-courant du cinéma d'aujourd'hui. Ben voilà. Beaucoup plus industriel.
Aujourd'hui, on prend des applications et on fait des films. Babysitting, c'est une application d'autre chose.
Donc, on surprend beaucoup les gens. Avec ce film-là, c'est pour ça qu'il peut y avoir une crainte de l'industrie ou des financiers. C'est pour ça que c'est compliqué à monter. Mais le cinéma, c'est aussi surprendre. Ce sont des films qui sont. On ne s'ennuie pas, mais il n'y a pas vraiment d'histoire. Oui, c'est étrange comme
c'est
récit.
Normal, d'ailleurs, justement.
Et c'est ça qui est intéressant. C'est probablement pour ça que ça va intéresser du monde, parce qu'ils vont se dire, waouh, ça nous change.
C'est une vraie proposition. C'est un film dont on ne sait pas ce qui va se passer tout de suite après. C'est pas cousu de fil blanc. Et puis, on l'a peut-être pas assez dit. Moi, j'ai trouvé que le film était drôle, qu'il était très poétique, parfois loufoque.
Clairement.
Et que même si on n'a pas forcément envie de réfléchir, ça pousse quand même à se dire, tiens, où est-ce qu'il nous emmène?
N'en déplaise à Christian, ça donne à réfléchir.
Que symbolise encore un autre mot.
Non, mais les personnages... Comprenez-moi bien, quand je dis ça, je trouve que les dialogues de Bertrand, c'est beaucoup mieux que la réflexion. Voilà, c'est ça que je pense. Donc je pense que ça peut être profond, qu'il y a de la poésie, qu'il y a de la drôlerie, qu'il y a du rapport entre les acteurs, mais il n'y a pas cette espèce d'analyse pour savoir si c'est bien ou pas bien, qui ennuie terriblement.
Non, mais l'analyse,
je parlais pas de ça. Je parlais de
personnes. Après,
on disait des personnages justement qui veulent avoir un bout de dialogue, un bout de scénario dans la vie. C'est une image qui est extrêmement forte, et ceux qui n'ont pas leur place, et on en parle beaucoup en ce moment, veulent avoir un bout de scénar, un bout de vie, un bout d'histoire à raconter,
et rentrer
dans l'histoire.
Oui, c'est catastrophique.
Et puis c'est un plaisir aussi de voir un film, Christian Clavier.
Ce garçon-là est fin. Il paraît qu'il est très très bien payé.
Et puis Christian Clavier, on ne peut pas enlever le plaisir aussi du spectateur de sortir d'une salle de cinéma et de se dire, tiens, quel effet ce film produit sur moi? Parce que c'est aussi ça la beauté d'un film et d'un spectacle, c'est d'être ému, de penser quand on voit vos deux statues qui s'inversent dans le film, quand on voit comment la boucle est bouclée, comment vous vous retrouvez, c'est aussi ça, c'est la puissance du cinéma et c'est un film de cinéma.
Et on va citer les autres acteurs et actrices qui sont à vos côtés.
Oui, parce que par un acteur dont on a souvent dit qu'il était misogyne, les femmes ont une place
absolument
magnifique.
Absolument, Farida Rawaj, il y a Audrey Dana, Sylvie Testu, Alexandra Alamy, et puis côté garçon, Alex Lutz, Guy Marchand, Louis Do de Longsin se retrouve également devant la caméra de Bertrand Blier avec, d'ailleurs, on continuera d'en reparler évidemment de ce film dans quelques minutes, mais vous avez écrit le scénario au fur et à mesure que vous tourniez.
Non.
Allez, c'est une réponse claire.
C'est une mauvaise interprétation que vous faites. Il y a eu un problème sur ce scénario. Il était trop court. Pour des raisons qui m'ont échappé totalement. Parce que, en général, je suis à la bonne longueur. Sans même m'en soucier. Donc là, on m'a dit, le soir, après le tournage, j'écrivais des scènes pour essayer de rallonger un peu.
Donc j'étais pas loin de vous écriviez pendant
le tournage. Il manquait 10 minutes.
Alors, ils lui ont dit, il est trop court. Malgré tout, le producteur avait trouvé un peu de fafio, de pognon pour le commencer. Et avec Christian me regardait, il me dit, il est trop court. Oui, il est trop court, mais laissons, tournons ce qu'on a déjà, puis on verra bien par la suite. C'est-à-dire que ça vient, ça rejoint un peu les pages qui volent en l'air. Ouais, c'est ça. Et c'est très bien. Moi, c'est pareil, je n'ai plus de scénario. Mais j'aimerais bien qu'on m'écrive une chose pour savoir ce que je vais vivre demain. Mais c'est pas des scénarios dont j'ai besoin. C'est surtout des pages, parce que là, ce que j'entends, il n'y a plus de pages, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui ont des idées. C'est de la merde. Oui, ce que je vais manger, je mange moins. Mais je vais quand même bien manger, rassurez-moi.
À propos de manger, c'est une improvisation que vous avez faite sur le poulet?
C'est-à-dire comme ils étaient trop courts.
et que le poulet landais...
Ils nous ont mis en charge
de ça. Ils étaient trop courts et qu'on avait faim. Et je voyais aussi bien Christian qui avait faim, malgré ses régimes. Et je voyais les salives qui venaient. Et bon, on parlait souvent, comme toujours, entre les prises, où on parle des autres acteurs. Je ne dirai pas ce qu'on dit, mais en tout cas, ça rentre dans notre alchimie. Et puis ça aide les autres acteurs. Mais c'est vrai que je remarque toujours les gens qui ont faim. Tu sais, quand tu sens que la pause vient, et on sent les estomacs. D'ailleurs, il y en a qui font du bruit. Et je regarde bien tous les gens qui ont faim, et ce qu'ils regardent dans les vitrines ou dans les choses. Et je dis, tu vois, lui, il a envie de manger. Si je lui disais, par exemple, qu'on pourrait manger... Là, à mon avis, il a envie de manger un peu de charcuterie. Ce qui lui ferait plaisir, c'est un bon morceau de saucisson ou un peu de rabougo, du jambon espagnol. Et puis, comme on parle de choses comme celle-ci, c'est vrai que dans les scènes du fin, j'essayais de faire saliver Christian. Et puis, voilà, on a fait ça comme ça et on l'a fait longtemps.
Oui. Ah. Et c'est comme ça que se termine le film. C'est
oui, enfin, avec une bonne récupération de Bertrand qui après...
Mais avec le père de Bertrand et Carmé et tout le monde, on avait même des recettes pour le P. Car,
Comment ça ?
Oui, pour pouvoir travailler le bruit...
Pour bien péter.
Et l'odeur. Et je me souviens qu'un jour, au troisième sous-sol d'un... C'était dans putain de film, c'est ça, quand on a failli asphyxier...
Josiane Balasko.
Non, il n'y avait pas...
Elle raconte non. Qu'elle a été victime
Balasko,
de Beaupé.
Oui, parce qu'elle pète beaucoup aussi, ouais. Elle. Non, on avait asphyxié, et chacun avait ses fiches, ses petites recettes du P. Pardon, France Inter, mais vous aussi, vous y allez aussi. Pétez.
Oui.
Et le bruit, l'odeur. Jean Carmé, c'était oignon et cornichon, c'est ça?
Jean Carmé, oignon et cornichon... Mais pour rajouter l'odeur, moi, c'était café et fromage blanc.
Voilà.
Et oignon, cornichon, il avait des petits grelots du vinaigre, des cornichons, et un demi panaché aussi, pour avoir une espèce d'odeur sucrée. Bien.
Très bien. C'est ça.
Je vais vous laisser.
Ah, je vois que tout le monde rit, parce que tout le monde cherche son odeur.
Le bruit et l'odeur, on va continuer avec Guillermo Guise.
Ça va, les amigos?
Yes.
Bon, j'en parlais encore, il y a deux heures avec Arlette Chabot, on était en after au VIP room. Elle me disait, Ernesto, fils de l'Europe des peuples, il faut que tu sors du bois. Elle me disait, tu peux plus te taire sur l'Algérie. LCI veut l'exclusivité. Le Maghreb attend ton avis. Je lui fais, chouchou, je peux pas te parler. Je suis pieds et poings liés. Mediapart me harcèle. J'ai dit oui à Edoui Plenel. C'est mon beau-père. Je veux rien faire, tu vois. En revanche, si tu veux m'entendre parler d'Algérie, écoute la bande originale ce matin. Je lui dis, elle me fait, oui, t'es fou. Nagui pose des questions. Même moi, je suis pas habitué à la longueur et tout. Je dis, ouais, mais il y a Blié, Depardieu, Clavier ce matin. C'est les costauds. Ça se trouve, Nagui, il va écouter les réponses, tu vois. Ça peut arriver. Et moi, vers 11h30, j'ai une chronique, ça parlera de la SNCF, mais tu verras, c'est métaphore, parabole et compagnie, en sous-texte, ça parlera de l'Algérie. Elle me dit, putain, bon, ok, je me ferai violence, c'est horrible, mais j'écouterai la bande originale. Par contre, essaye d'articuler, pour une fois. Hein. Julie Arlette sort pas les dossiers qui blessent. Je dis, Jean-Roch, mets-nous le dernier, s'il te plaît, Tequila Popper, sous le fond de Leïla. Ouais, mais je transmettrai le message, Leïla, cette histoire, il faut régler cette histoire d'ardoise.
Oui.
Ça me met dans les positions. Bref, la chronique. En gros, je me suis retrouvé dans le Paris-Limoges. En tournée, sexy. C'est la salle qui a payé mon billet de train et j'avais le mail de confirmation, mais j'avais oublié de retirer le billet en borne. Et je sais, c'est déjà palpitant. J'imagine Arlette derrière son poste en disant, Ernesto, c'est le nouveau Pierre Belmar, tu vois. C'est pas un compteur, c'est un griot. On est scotché. Donc, j'avais pas retiré le billet en borne et le contrôleur me dit, écoutez, je vais devoir vous faire payer le billet avec une majoration. 134 euros. Je dis, putain, c'est chaud, 134 euros pour Paris-Limoges. Paris-Limoges, à minima, il y a une gratuité, normalement, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est vrai, et c'est pas une question d'argent. Hein. Moi, je connais Nagui, on n'est plus amis depuis la Coupe du Monde, mais j'ai assez de dossiers sur lui pour que si jamais... Enfin, bref. Et le contrôleur me dit, si vous introduisez une procédure de remboursement à la SNCF, il se peut que vous soyez en partie remboursé. Mais je lui dis, moi j'ai une meilleure idée. Plutôt que d'entamer une procédure de remboursement qui va casser une couille au moins à tout le monde, à la SNCF, à moi, à Jean-Paul II, à Alain Prost, à Cheb Mami, à tout le monde, est-ce qu'on pourrait pas faire comme si le billet était déjà payé? Et que, genre, on se dit, voilà, c'est pas très grave tout ça, l'État islamique a été vaincu, la tuberculose aussi. Dans 4 milliards d'années, de toute façon, notre galaxie va être percutée par sa voisine. Donc viens, on se dit qu'on s'emballait, tu vois, et c'est pas très grave, quoi. Il me dit, non, c'est la procédure, vous n'avez pas retiré le billet en borne. Eh bien, j'ai dit, dans ce cas, je vous souhaite des hémorroïdes avant le printemps. Ah oui, des surmesures pour la famille, dès qu'ils poussent pendant l'anus, dès qu'ils poussent dans les sourcils, vraiment. Et vous me connaissez, je suis pas un misanthrope. Moi, j'aime bien Sapiens sous toutes ses formes, j'aime tout le monde, j'aime même Daniel Morin pour vous dire. Je vois Daniel, je me dis, ok, ouais, il est ceci, il a cela, il a dit du rayon, ce que tu veux. En attendant, c'est un frère humain, en plus poilu, certes. Là, les insectes sont en train de s'éteindre, mais sur Daniel, il y aura des poches de résistance, je te le dis. Prends ça, Michel Houellebecq. Et ce contrôleur, vraiment, il m'a donné envie de crever dans une pancetta, quoi. Je le voyais. Il avait des cheveux en brosse, putain, en 2019. Des cheveux en brosse, c'est quand t'as des cheveux en brosse en 2019, d'office, t'as une petite tendresse pour la Grande Allemagne. C'est sûr et certain. T'as un chien, tu l'appelles discipline. C'est sûr et certain. Bref, l'autorité, le pouvoir, ce que je vous dis, aussi petit soit-il, bah, ça rend mesquin, on en use, on en abuse, on s'y accroche. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, Arlette. C'était mon sous-texte sur l'Algérie, tu vois. T'as rien raté, quoi. Et j'étais remboursé par la SNCF. Vive la SNCF. Bien. Bonne émission.
Merci, Guillaume. La bande originale.
Nagui. Sur France Inter.
La bande originale de nos invités, on va commencer en 67 avec Christian Clavier qui écoutait Mrs. Robinson. Quand vous entendez cette musique, Christian, qu'est-ce que vous avez comme image? Vous voyez
dans le film de Mike Nichols, c'est un magnifique film, ouais. C'est qu'on a vu 20 fois et qui était extraordinaire. Puis de Simon, les premiers 10 et les deux après, c'est vraiment extraordinaire.
Le concert à Central Park quand ils étaient
exceptionnel. Je pensais qu'il y aurait du monde, mais je pensais pas que ce serait plein.
Exactement.
500 000 personnes, c'était incroyable.
Noir de monde, incroyable.
Et vous, pendant ce temps-là, en 67, Christian Clavier, vous vous lancez sur scène avec une troupe amateur, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Gérard Jugnot.
C'est un peu tôt pour dire ça, en fait, mais
pour la pièce, la concierge est tombée dans les.
Oui, oui, c'était au lycée, c'était
ouais.
Pas.
Troupe amateur.
On avait 17
ouais.
ans encore à ce moment-là, mais on faisait. Oui, c'était une pièce qui avait écrite Blanc, dans laquelle on jouait des gens de 60 ans. Oui,
l'envie de faire rire, c'est une. Vous avez toujours eu ça en vous. Vous étiez ingérable à l'école. Vous étiez.
Oui, on était compliqué. Ouais. Oui, on était compliqué.
Et c'était pour draguer, c'était pour faire rire les filles au début?
Non, c'était pour se faire remarquer, c'était une façon de dépasser ses complexes, et puis ça nous réunissait, on riait beaucoup, c'est un plaisir de rire, on s'amuse, on a toujours été très moqueurs.
Mais qu'est-ce
on
qui
a
vous été moqueurs
dans toutes les périodes de nos existences, on n'a jamais été extrêmement sérieux en fait.
Et qui vous faisait rire? Qu'est-ce qui vous faisait rire?
Ouais, Poiré Serreau, c'était... Parce que ce ton pour dire des bêtises extraordinairement sincères et totalement quotidien était absolument génial, c'est ça, on avait une passion pour eux, oui.
Hirsch Charron,
enfin, je veux dire, il y avait W.C. Fields, il y avait le Peter Sellers, évidemment, dans les Black Edwards, fondamental, acteur extraordinaire, de Funès, magnifique.
Les Marx Brothers.
Marx Brothers moins, parce que c'était très intello, donc, les Marx Brothers.
Oui, ils étaient trois. Enfin, les Monty Python plus tard.
Monty Python plus tard, oui. Ouais. Monty Python, oui, bien sûr. Il a failli jouer le Père Noël, d'ailleurs, les Monty Python. Ça avait été acheté par Harry Saltzman, le producteur de James Bond.
C'est vrai.
Il avait fait une très bonne adaptation du Père Noël, et puis après, ils ont décliné, ils ne l'ont pas fait. Mais ça aurait été très amusant.
Et qui est-ce que vous croisiez de votre génération à l'époque, quand vous avez commencé vraiment à vous produire
Soulier,
sur scène?
Il y avait Isabelle, Adjani, il y avait... Après Josiane qui était au cours de chez Balachova, on a croisé toute notre génération, Jacques Villeray, enfin tout le monde. Et puis on a été fasciné très vite par les valseuses et puis par le café de la gare. C'était très intéressant, mais après c'était plutôt le cinéma qui leur ouvre les bras avec Miu Miu et puis Gérard qui était vraiment.
Moi j'ai pas fait partie du café de la gare.
Non, mais Gérard était très très impressionnant. Moi je me souviens le premier film où je le rencontre, c'était Dites-lui que je l'aime, le film de Claude Miller. Il m'impressionnait beaucoup. En fait, ils étaient tous impressionnés, ils avaient peur de lui. Et c'était incroyable parce que lui...
Ça revient souvent,
Non, mais moi, je n'avais pas peur du tout. C'est un homme extraordinairement bon et gentil. Il était impressionnant parce qu'il aimait bien jouer à ça. Mais c'est lui
qui... Pas que j'aimais jouer à ça, c'est que je ne savais pas faire autrement parce que j'apprenais en même temps que j'écoutais. Je regardais, finalement...
Quand je t'ai rencontré la première fois, tu as épuisé un chien loup. En lançant un bout de bois. Et après, oui. C'est le premier qui me dit, en sortant, il avait une voiture stupéfiante, et ce chauffeur, hein, tu te souviens, et il me dit, toi, tu veux prendre la voix de Funès, ça va être très difficile. C'était incroyable. On avait joué simplement une bagarre. Mais c'est toujours très, très bien entendu. Mais grosse admiration, oui, c'était. Un ovni, c'est ce qui se produit quand Gérard arrive dans le cinéma français, c'est exceptionnel, c'est vraiment, vraiment exceptionnel au sens premier.
Est-ce que c'est pas terrible d'arriver après Gérard Depardieu ?
Bon, on est arrivé en même temps, donc on se disait on a une petite chance.
Ouais. Non mais je comprends, ouais.
Non, moi j'ai toujours aimé beaucoup Christian et la bande du Splendide. C'est vrai que je voyais aussi Thierry Lhermitte maintenant, qui est une sorte de Jean Poiré. Oui. Mais toi, c'était aussi à part, parce que quand tu disais tout à l'heure que le rire, mais c'est un rire moqueur, mais en même temps jamais méchant. Mais il y a une émulation, parce que c'est vrai que quand on voit la différence entre Gérard Jugnot, qui est un rire qui est bloqué sur le petit cacaillier qu'il est, mais quand on voit Christian... Thierry Lhermitte aussi, qui est très costaud. Michel, qui est vraiment l'intellectuel aussi, l'hypochondriaque. Ça ne m'étonne pas qu'il ait écrit tout Michel directement. Et tout ça avait des vies dont les pères étaient différentes. Moi, ça m'amusait beaucoup, alors que le Café de la Gare, c'était déjà des pensionnaires. C'était des intellos, pas drôle du tout. Romain Bouteille était chiant comme la pluie. Il y avait Miu Miu qui était mignonne. Il y avait aussi Patrick, de verre un peu perdu. Mais le reste, s'il y avait Henri Guibé, j'aimais bien, parce qu'il y avait un côté boulevard chez Henri Guibé, mais c'était plus drôle, excepté Coluche, que j'ai jamais bien aimé. D'ailleurs, il le sentait, parce que lui, il avait peur. Mais c'est vrai que, bon, ils étaient très, très bien.
Bertrand Blier, vous, à l'époque, vous écoutiez Serge Gainsbourg. C'est la musique du film Si j'étais un espion, Serge Gainsbourg, en bande originale de film et en bande originale de votre vie. Gainsbourg, c'était une inspiration.
Je l'ai connu comme musicien d'abord.
Ouais.
Et puis après, je l'ai connu comme musicien aussi. Il savait faire que ça finalement.
Vous lui avez demandé une bande originale ?
Pour mon deuxième film, je lui ai demandé. À l'époque, il n'était pas star. Il m'a dit oui. Et puis après, je lui ai proposé Les Valseuses. Là, il m'a dit non. Il n'a pas voulu le faire. Il s'est mordu les doigts. Et puis après, il a fait Tenue de soirée. Mmh. Voilà.
Et travailler avec Gainsbourg, ça a apporté quelque chose. Parce qu'il était hyper sensible, il était fragile.
Il était compliqué. On parle des acteurs compliqués, mais lui, c'était vraiment... Parce qu'il faisait tout au dernier moment. Par exemple, pour enregistrer le lundi, il commençait à travailler le dimanche soir. Et il disait, depuis 8 jours, je suis complètement prêt, j'ai tous les thèmes. Il n'avait rien. Donc il enregistrait dans la nuit de dimanche à lundi, il arrivait au studio avec un petit truc japonais sur lequel il y avait 80 titres, il me dit, et je lui disais, t'as mis des numéros ? Il me dit, non, tu vas t'en occuper.
Quand vous dites que les musiciens sont compliqués comme les acteurs sont compliqués, finalement les artistes ont une sensibilité, une fragilité qui rend compliqués ?
Oui, oui. Sinon, il ferait de la politique.
Voilà, il serait pas artiste.
En tout cas, c'est votre premier long métrage.
Deuxième.
Non, mais le premier, c'est pas Si j'étais un espion ?
Le premier, c'est Hitler connaît pas.
Ah bon, d'accord.
Qui est un film bizarre.
C'est-à-dire ?
C'est moitié documentaire.
C'était un doc. C'est pas un long métrage. C'est pas que de la fiction en fait.
Non, voilà. Ouais. Voilà, je peux pas vous le raconter parce que c'est trop ancien.
Vous en souvenez plus ?
Si, mais c'est trop compliqué. On va mettre une heure. Clavier va s'énerver.
Non, c'est pas ça, mais c'est parce que le film était très bien, mais bon, c'est lieu. Quoi.
Ouais. En tout cas, dans votre premier long métrage de fiction, Si j'étais un espion, vous dirigez votre père.
C'était un film avec des acteurs, une histoire, une fiction, etc. Oui. Ouais. Et mon père joue le rôle principal.
Et alors, qu'est-ce que ça donne de diriger son père ?
Qu'est-ce que ça donne toujours ? C'est-à-dire, quand l'acteur est bon. Et que le fils n'est pas trop mauvais, on fait du bon boulot.
Ouais.
Là, dans le convoi exceptionnel, vous dirigez votre compagne. C'est pas la première fois que vous le faites. Est-ce que là aussi, c'est délicat ou on arrive à cloisonner, à faire abstraction
c'est
du
délicat.
Rapport personnel ?
C'est toujours délicat de tourner avec sa femme. Parce qu'il y a un double trac. Il y a le trac qu'on a normalement. Et elle, parce qu'elle va jouer, et moi, parce que je vais la regarder jouer. Et il y a un troisième trac qui est le regard de toute l'équipe qui fait tourner sa femme, et ça va pas être comme d'habitude. Donc il y a un côté triple trac. Et là, ça a été un...
Alors qu'elle est bouleversante.
Alors là, ça a été un cadeau fantastique. Ben oui. Parce que moi, je lui ai fait un cadeau. D'abord, je lui ai écrit une scène formidable, mais très dure à jouer. Et après, on a été sur le plateau. Et au moment de tourner, j'avais vraiment très, très peur. Et elle m'a fait le cadeau retour. C'est-à-dire qu'elle l'a joué immédiatement génial. Donc, on a fait, je crois, une ou deux prises maximum.
Alors que généralement, vous tournez plus ?
Non, pas beaucoup plus. Non, pas beaucoup plus. Mais...
On est très pressé.
Quand on fait beaucoup de prises, c'est que l'acteur est mauvais. Hein.
Jamais réalisateur.
Non, jamais. Alors, les réalisateurs,
ils sont toujours bons. Ils sont toujours prêts.
Ils sont prêts.
Lui, il est toujours très bon. Oui.
On est bon. Oui. Mais ça arrive d'avoir des acteurs mauvais, ça m'est arrivé.
Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que les objectifs et les profondeurs de champ, au moins, ça ne bouge pas dans tous les sens, mais on voit tout. Et puis, c'est vrai que Farida, elle adore. Elle aimait beaucoup son Bertrand quand elle jouait les choses. Elle aime beaucoup jouer. Elle aime bien ça. Ça, c'est bien.
On a demandé à Thibaut de Saint-Maurice, bonjour Thibaut,
bonjour,
de venir à ce micro. Vous êtes philosophe et essayiste, vous avez une chronique sur Inter, La Petite Philo, tous les jeudis à 10h35, dans Grand Bien Vous Fasse, d'Ali Rebéi. On vous a demandé de venir pour parler du destin justement et de la destinée, ce que l'on ressent dans ce film. Tout à l'heure, Bertrand Blier disait qu'il croyait au destin, mais qu'on pouvait quand même...
Très bonne chanson du Père Noël, Destinée.
Destruit, qu'on pouvait... C'est les Sous-Doués au début, non? C'est pas les Sous-Doués?
C'est dans les Sous-Doués.
Guy Marchand,
si,
ouais.
Mais le 2.
Je crois que ça avait, ça avait pas été d'abord fait pour les Sous-Doués avant le Père Noël, il me semble. Hein. Il me semble. Mais bon, Bertrand disait tout à l'heure qu'il croyait au destin et qu'on pouvait réécrire les pages. Est-ce que le destin existe en philosophie?
Le destin, il est d'abord une certaine conception de la vie, du monde, etc. En fait, croire au destin, ça veut dire en fait reconnaître que tout ce qui arrive, la chaîne des événements, l'enchaînement des causes et des effets, ça a une réalité. Donc ça, on est obligé de le reconnaître. Hein.
Mais le fait de ne pas pouvoir agir dessus.
Alors,
parce qu'il y en a qui subissent leur destin aussi.
Exactement. Et du coup, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cet enchaînement de causes. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps. Hein. Cicéron, déjà, écrit un traité du destin et se pose cette question-là. Et donc, oui, les choses arrivent avec des causes, mais le problème, c'est de savoir ce qu'on en fait, nous, effectivement. Hein. Parce que dans les deux cas, qu'on soit sage ou qu'on soit fou, on peut, par exemple, subir une tempête. Ben, le fou réagira différemment du sage. Donc, nous, on n'a pas forcément le pouvoir de transformer le cours des événements. En revanche, on a la possibilité de réagir différemment à certains événements par rapport à d'autres.
Alors, il y a les fatalistes aussi, les défaitistes, ceux qui, comme tout à l'heure, Christian Clavier le disait, d'ailleurs, dès l'instant où, si c'est écrit, si c'est pas bien, on laisse tomber, on passe à autre chose. Si c'est bien, on y croit. Ouais, c'est ça. Qui est une démarche plutôt positive de Christian Clavier, ça. J'imagine que c'est votre philosophie personnelle, Christian,
non,
de tout prendre d'une manière positive. Vous n'êtes pas plutôt à vouloir tout prendre d'une manière positive?
Non. Enfin, j'essaie d'avoir une sorte de bon moral à certains moments, mais non, on peut pas. La vie est parfaitement tragique, donc il y a pas de raison d'être à ce point-là positiviste.
Mais ces situations tragiques, ils font rire au cinéma, par exemple.
De toute façon, la tragédie est extraordinairement proche du comique. C'est, quand vous jouez Fedo, vous jouez une tragédie à l'envers. Vous jouez votre peau. Les personnages jouent leur peau, ils sont enfermés dans quelque chose qui est une tragique pour eux. Voilà.
Est-ce que certaines personnes, Thibaut, pensent pouvoir écrire leur destin, avoir un libre arbitre si puissant que je fais ce que je veux, c'est moi qui décide?
Ben, c'est compliqué parce que si on croit au destin d'un côté, c'est très compliqué de maintenir une croyance au libre arbitre, parce que liberté et destin s'opposent malgré tout. Hein. En revanche, s'il y a une réalité, alors c'est un mot du déterminisme, c'est-à-dire des choses qui arrivent et qui s'enchaînent, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut s'en libérer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que au fond, le déterminisme et donc le destin de la nature, en un sens, c'est pas l'ennemi de la liberté. Parce que si on prend le temps de le connaître, par exemple, tout à l'heure, Bertrand Blier disait les parents, le milieu d'où l'on vient,
oui,
etc.
Voilà,
c'est une forme de destin social.
Bien sûr.
Si on prend le temps de le connaître, si on prend le temps de savoir d'où l'on vient, etc., et ben ça donne la possibilité ensuite de ne plus subir ce qui nous arrive. Hein. C'est Spinoza. Avec Spinoza, on peut dire qu'on n'est pas forcément libre parce qu'on fait ce qu'on veut, mais parce qu'on sait ce qu'on fait. Et parce qu'on sait ce qui nous arrive et pourquoi ça nous arrive. Voilà. La connaissance des choses qui nous arrivent, des causes qui nous déterminent, c'est une manière de s'en libérer parce qu'on ne les subit plus. Et puis, c'est une manière aussi de pouvoir, on parlait tout à l'heure de la correction des pages de scénario, c'est une manière aussi de pouvoir de corriger aussi, de mettre un peu sa partition dans le cours de l'existence.
Thibaut de Saint-Maurice, merci Thibaut d'être venu à ce micro. Des philosophes et des héros, la petite balade en philosophie à travers les personnages favoris, Superman, Bridget Jones et autres. Le cinéma est très présent également, évidemment. C'est chez First Edition. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Vous allez nous parler du Cheese Challenge. Oui. C'est quoi encore ce truc?
Bah, c'est officiel, la connerie humaine n'a plus de limite. Notre civilisation est en fin de parcours, on est foutu. Puisque la dernière mode sur le net est de lancer du cheddar en tranches sur son bébé tout en le filmant. À part Cyril Lignac qui peut trouver que ça redéfinit habilement les rapports père-fils, je vois pas à qui ça peut plaire.
On en parlera après les infos de Midi sur Inter. Bienvenue, merci de nous rejoindre avec Leïla Kadobodeli.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Leïla.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Tom Villa. Guillaume Auguiz. Et nos invités, Christian Clavier, Gérard Depardieu et Bertrand Blier.
Bravo.
Convoi exceptionnel sort aujourd'hui au cinéma. Vous êtes détendu d'ailleurs, Bertrand. Vous avez.
Absolument pas.
Avez-vous encore le trac?
J'ai le trac, je ne suis pas détendu du tout. Un metteur en scène détendu, j'ai jamais vu.
Il y a deux journées qui se suivent là, qui vont être importantes dans votre vie, aujourd'hui et demain.
Oui, surtout aujourd'hui.
Et demain, c'est votre anniversaire.
Demain, on s'en fout, c'est l'anniversaire.
Ah, pas du tout.
Mais non, c'est très important.
On boit un coup.
On gâteau.
Saucisson.
Oui, bah oui, bien sûr.
Pas de bulle.
Café et fromage blanc, hein, c'est ça.
Café, fromage blanc, oignon, volo, volo.
Panaché.
Convoi exceptionnel avec Gérard Depardieu et Christian Clavier qui sont deux personnes torturées par ce qu'on leur demande de faire ou par ce qu'ils subissent par des pages de scénario dans le film. Ils souffrent finalement, les deux.
C'est surtout Christian qui souffre parce que lui, il a un vrai scénario au début du film et sur ce scénario, il y a des choses qui sont mentionnées. Par exemple, il faut tuer un mec. Et alors que Gérard n'a pas de scénario, il est libre. Mais il suit quand même l'action.
Mais alors donc, il est libre, il n'a pas de scénario, mais il suit quand même l'action, donc il est faible?
Non, c'est parce que je le convainc, je suis convaincant.
Oui, oui c'est ça, il y a un petit mec devant lui qui marche, il le suit.
Mais donc, il est assez perdu.
Pour incarner la liberté, justement, la liberté de penser, la liberté de faire ce qu'il veut, Christian Clavier, lui, pourrait incarner celui qui subit les diktats de notre société, et bizarrement, ce sont les diktats qui l'emportent, Christian.
Oui, oui, mais c'est le cas, oui.
Mais la liberté, on l'a déjà prêté.
On nous dit ce qu'il faut...
On nous dit tout aujourd'hui. C'est ce qu'il faut penser, manger, oui. Comment se conduire. Mm-hmm. La liberté se réduit.
On n'est pas libre aujourd'hui. Hein.
Voilà, on n'est pas libre.
On n'est pas libre.
On n'est pas libre, mais justement, des deux, celui qui est libre ne profite pas de sa liberté.
Non, moi j'ai un moment, parce que comme je le trouve sympathique, au bout de 3-4 feuilles, comme c'est lui qui me dit, je lui dis, bah, continue. Bon, si j'étais pas pour tuer le réveiller. Bon. Et puis finalement... il trouve un copain, là. Un copain qui lui dit des choses, quoi faire. Et donc, c'est formidable. Mais je pense que la liberté n'est pas astrayante, c'est pas vrai. Je trouve que c'est très bien, surtout quand on est contemplatif. Quand on regarde et on voit dans... Quand on peut voir, parce que c'est vrai que on a des professions qui nous empêchent de regarder les autres, véritablement. Je pense que la liberté, c'est exceptionnel.
Je crois qu'au contraire, vos professions vous poussent à observer les autres et à les comprendre.
La profession d'acteur, bien entendu, on peut voir, mais on voit mieux, finalement, quand les gens ont peur de leur métier, rentrent dans un métier. Ils essayent de s'appliquer pour le faire. Moi, j'ai toujours eu la sensation d'être libre, vraiment, parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Vous croyez que je voulais être acteur? Non, certainement pas. C'est venu comme ça. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de communiquer. Je voulais apprendre à parler. Je voulais connaître les mots. Et c'est tout. Puis la littérature. Je voulais qu'on me raconte des histoires et que je fasse ma cuisine à moi intérieure. C'est une sorte de destin, comme dirait notre prof là-bas. J'avais cette destinée dans la tête, quoi. D'apprendre pour mieux connaître et surtout par la nature d'ailleurs.
C'était le point de départ, Bertrand Blier, quand vous avez écrit Convoi exceptionnel, le point de départ de dire justement l'un va avoir les diktats de la société, va devoir avoir ce comportement, l'autre sera libre et il y a une morale un peu quand même à la fin, c'est la liberté qui gagne.
Pas du tout.
Quel était le point de départ alors?
Mais je ne sais pas, le point de départ, c'est le point de départ. On commence, il y a une page blanche et on écrit une phrase. Mmh. Puis après, il y a un scénario qui vient, pendant un mois, on écrit.
D'accord, mais vous voyez bien que ça trouve écho, justement, dans des choses que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire
oui,
de
oui,
se dire...
Oui, il y a toujours de l'écho, des explications, des choses, mais moi, j'ai pas tout ça dans la tête. Moi, j'écris des trucs pour me marrer, mais les acteurs avec qui je travaille aiment bien se marrer aussi. Donc, à l'arrivée, il y a des messages.
On peut pas être dedans et dehors. Vous pouvez réfléchir à ce qu'on a fait.
On le vit comme
nous,
ça.
Nous n'avons fait que le faire.
C'est aussi un film sur le cinéma, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment on met en scène le vieux producteur qui n'a accumulé que les bides et qui est complètement fauché. On voit aussi vous, les personnages finalement, qui sommes. Vous êtes contraints d'obtempérer, vous êtes un peu assujetti au scénariste qui est roi. Le scénariste qui lui aussi est soumis à la pression, parce qu'on dit il m'appelle pour rendre des pages, mais on n'est pas prêt. Donc c'est aussi le monde, votre monde aussi de cinéaste.
Une mise en abîme.
Qui est raconté.
Ah, j'aime bien l'expression mise en abîme,
oui,
parce que,
c'est dangereux.
Comment te dire, mise en abîme, t'es au bord du gouffre, et alors voilà, vous êtes en abîme.
Non, c'est une expression dans le monde du cinéma, vous la connaissez bien.
Oui, monsieur, c'est des clichés, ce sont les clichés qu'on voit en permanence, qui veulent absolument rien dire, c'est comme
comme travelling, c'est une expression aussi.
Ah non, travelling, c'est.
Mise en abîme, vous demandez au scénariste que vous êtes, et.
Non, moi je mets jamais en abîme, j'ai les jetons.
Non, mais en tout cas, mise en abîme ou pas, peu importe, l'idée c'est quand même de parler d'un univers que vous connaissez bien. Et c'est assez critique,
oui,
finalement.
Oui, c'est pas un film sur le cinéma, c'est un film sur la vie. Dans la vie, il y a un peu de cinéma. Il se trouve que j'en fais, donc j'en parle un peu. Mais c'est surtout, j'ai surtout pensé aux gens qui font des séries.
Oui, oui. Les showrunners, tout
ça. Ça me fait marrer beaucoup plus. Un mec qui fait un film, bon, c'est respectable. Mais des séries qui durent 6 mois et qui parfois sont bonnes et qu'on regarde la nuit en les accumulant, ça c'est un travail énorme.
La dernière que vous ayez vue qui vous ait plu de série ?
Oh, c'est Le Bureau des légendes, je crois. Mais il y en a plusieurs.
Elles sont françaises généralement les séries que vous aimez ?
Non, il y a des françaises, mais il y a surtout des étrangères, oui, américaines et autres.
Oui.
Les robots, le film scandinave sur les robots, là, comment ça s'appelle ?
Human Robots, non, c'est la série sur Arte, là.
Ouais, ça c'est génial. Ça fait très peur.
Peaky Blinders,
je connais pas. Pardon ? Ouais.
Peaky Blinders, c'est une extraordinaire série.
Et vous, Jean ?
Moi, j'aime bien les Nightfall. J'aime bien les séries historiques parce que c'est extraordinaire de. Oui, c'est assez mauvais. Parce que c'est Le Bureau des légendes, j'arrive pas à le regarder, je vois pas. Je n'y crois pas un instant. Je vois que ça a été tourné à Ermenonville, je vois comment les manières, les tics, les attitudes de tout ça. Toutes ces séries, partout où il y a des attitudes, ça m'emmerde. Donc je vais directement, je passe dans le temps. Je regarde Viking en ce moment avec Ragnar. C'est complètement dément.
Et Marseille, ça vous a déçu?
Marseille, je sais pas, non, je sais pas. Mais non, ça, Marseille, c'est les Américains, je pense aux producteurs, à cette espèce de mépris qu'ils ont, comme ça, je pense, tout de suite. J'ai qu'une envie, c'est de les faire chier, les Américains, comme à la base américaine de Châteauroux, on fait des bras de fer, on leur casse le nez, de payer un verre. Et là, pour les mecs de série, les Netflix, tout ça, c'est extrêmement limite. Ça limite beaucoup. Mais, effectivement, il y a des très belles séries, danoise, suédoise, très bonne. Mais c'est vrai que il y a des séries où on sent ça pue la peur, ça pue le fabriquer. Et notamment, j'ai pas pu regarder, j'ai essayé de regarder Le Bureau des légendes, des choses, mais ça ne fonctionne pas.
Braco, la première saison d'Olivier Marchal, était bien.
Non, je connais trop le cirque aussi avec Olivier, qui est un très bon metteur en scène. Mais c'est,
oui, avec qui vous avez travaillé.
Il y a des tas de séries qui sentent la poudre et la coke. Ça me fait chier un peu, tout ça.
En tout cas, Convoi exceptionnel sort aujourd'hui au cinéma avec Christian Clavier, Gérard Depardieu et tout ça sous la direction de Bertrand Blier. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, vous êtes impressionné ce midi.
Oui, j'ai la frousse, les miquettes, les M&M's au fond du sachet. Parce que dans cette émission, il y a autant de pointures que chez Ram le jour de la livraison. Moi, Pastureau, qui a 30 ans encore végétais du côté de Pont-l'Abbé en comptant les mouettes. Le petit pastu, selon mes parents. Les talons celtes, selon les filles de ma classe de seconde. Le chihuahua breton, selon les filles de ma classe de seconde qui m'avaient vu nu. Suis assis à côté de légendes du cinéma. Par réflexe, je suis à deux doigts, comme on dit chez les lépreux du sud de l'Inde, de manger du pop-corn en me plaignant de l'inanité des pubs projeté avant dans le film, avant de réaliser que ce ne sont pas des pubs, mais la bande-annonce du prochain long-métrage avec Kev Adams. Plié, clavier, Depardieu, initial, BCD, c'est con, il manque à Gianni, on avait tout l'alphabet, selon Franck Ribéry. Avec Nagui plus Leïla qui fait le JT sur la 2, on n'a que des stars. Je serais pétrifié si jamais il n'y avait pas autour de la table Daniel Mora. Ultime incursion du réel dans un monde de strass. Poil au milieu des paillettes. Je me retrouve tout près de Christian Clavier, si près que je peux sentir son parfum. Axe body spray au musc, je suis très déçu. Jeune, je vous ai tellement aimé dans Les Visiteurs, ce film qui raconte la vie de gens du Moyen-Âge, moment où en Algérie débutait la carrière d'Abdelaziz Bouteflika. Monsieur Blié, comment oublier les valseuses que j'ai vues à l'âge de 7 ans à la télé? Parce que le contrôle parental avant, c'était pas 4 chiffres, c'était 4 grammes qu'il fallait attendre que votre père atteigne avant qu'il pionce et zappé comme on voulait. Et puis vous, Gérard, qui avez percé en 74, comme moi, puisque je suis né en 74, on a explosé en même temps, vous, le monde du cinéma, moi, l'utérus maternel. Oh. Certes, vous, sans morceau de placenta sur la tête, dommage parce que chez Drucker, ça aurait eu son petit effet. Donc c'est à vous, Gérard, que je m'adresse, alors que l'angoisse fait couler la sueur en perles le long de mon dos. Les personnes vulgaires, sur RMC Info, diraient que ma réduction, ce sont les chutes du Niagara. Gérard, vous connaissez tous les grands de ce monde, y compris peut-être des petits comme Kim Jong-un, le coréen coiffé à l'épandage de glyphosate. Puisqu'en septembre, vous passâtes en Corée du Nord, en repérage pour un film en compagnie d'Yann Moix, en repérage pour de futures conquêtes féminines, inscrites à l'université Kim Jong-un, du quartier Kim Jong-un, de Kim Jong-un-ville. Or, Kim Jong-un est l'une de mes idoles, alors que Camille Alban, par exemple, le hait. Je l'adore parce qu'il a ressuscité la démocratie. 99,99% de participation aux élections législatives. Le chiffre est tombé hier. Il y a la même proportion de gens qui votent en Corée du Nord qu'en France de personnes qui saignent du nez en tentant de décrypter un raisonnement d'Ariel Dombal. Et Kim Jong-un, il a compris, lui, qu'Internet, ce réseau nul qui a transformé Cindy, notre nièce de 14 ans, en poufiasse d'Instagram qui se cache les oui-oui avec sa peluche Snoopy, ça entraîne la population vers le bas. Par exemple, en ce moment, la mode sur le net est de Cheese Challenge. Alors ça consiste à jeter sur le visage de son bébé une tranche de cheddar en filmant sa réaction. En général, le bébé se met à pleurer, à part dans le Somerset où on adore le cheddar. C'est-à-dire que si c'est Gérard Larcher qui avait lancé ce défi, le petit se retrouvait avec une pièce de bœuf d'1,2 kg au milieu de la face.
Alors pourquoi en parle-t-on de ce défi?
Eh bien, parce que les parents qui lancent du chénard sur leur bébé, implicitement, disent aux autres, maintenant, c'est à vous de le faire, phénomène d'entraînement. Au Cap d'Agde, c'est pareil. Il en faut toujours un qui se déshabille et tout le monde suit. Dans un congrès du Modem, il en faut un qui crie « Vive François Bayrou !» Bon, la personne ne suit parce que quand même, c'est un peu gros. Et depuis 2 semaines, mais ce sont des centaines de gens qui lancent du chénard sur leur gosse. Par précaution, j'ai interdit à mon fils de 5 ans de s'approcher de la fromagerie. Je lui ai dit « Fais ce que tu veux. Va au bureau de tabac, prends-toi des clopes, de l'eau CB, rouille des 4 feuilles avec du shit si t'as envie, le fromager, c'est non, trop dangereux. Mais bientôt, on va voir BHL derrière des sacs de sable avec les tranches de cheddar qui volent. Et lui qui dit à Sarkozy au téléphone, si on dégomme le président, pas le mec, hein, le camembert, la région peut être pacifiée dans les 7 mois. Le cheat challenge, c'est une horreur, c'est Guernica revue par Chaussée aux Moines. En plus, Antoine Guédenet, chef de pédopsychiatrie à l'hôpital Bichat, dit que les enfants en bas âge prennent ça pour une agression et risquent de le reproduire une fois adulte. Or, personne n'a envie d'un futur où les gens se battent avec des babybelles, où un duel, ça se fera avec des bâtonnets piques et croques de la vache qui rit. Et puis, les nourrissons, dit le psychiatre, décèlent le comportement anormal des adultes. Exemple, vous placez un bébé devant Gérard Collomb, dès qu'il sait parler, il se met à crier « Mais lâche-la, t'es méri vieux, prends ta retraite !» Bref, il souffre. Une civilisation où les couples jettent du cheddar en tranches sur leur bébé est une civilisation en fin de cycle. Donc, monsieur Depardieu, Gérard, j'ai mon amour. Je doute que vous n'avez jamais croisé Kim Jong-un. Mais si jamais vous connaissez un ami, d'un ami, d'un ami qui a son 06, j'aimerais lui parler. C'est pour lui demander comment faire pour une coupure générale d'Internet. Chez lui, il n'y a pas Internet. Bah, le fromage, c'est sur le pain, pas sur Kevin.
Merci. Ouais. Bertrand Blier, vous donnez une part belle aux femmes, on l'a dit tout à l'heure, je le rappelle, Farida Rawaj, Audrey Dana, Sylvie Testu, Alexandra Lamy, et d'ailleurs elles ont chacune, elles renvoient une des facettes multiples des femmes, celles qui cherchent une place, celles qui cherchent l'amour, celles qui au contraire a brisé le cœur de l'autre, chacune a un point de vue très précis, elles sont plus présentes que d'habitude, les femmes.
Elles ont des destins très différents les unes ouais. des autres, oui. Il y a un peu de tout, là.
Ouais.
On est dans la rue, quand même. Hein. Donc on croise des femmes bizarres.
Mais non, elles sont pas bizarres, justement.
Si, elles sont très bizarres. Farida qui vient faire la manche dans une boulangerie pour avoir un croissant à 4h du matin.
Oui, c'est d'accord. Pas... Mais elle veut sa place. Elle veut sa place dans la vie. Elle veut sa place dans la société.
À chaque fois qu'on parle de cette scène de boulangerie, on a les deux, là, Christian Clavier et Gérard Depardieu qui se marrent.
Comme des potages.
Comme des gamins. Il y a un truc, il y a une blague derrière.
Non, parce que devant, on se les gelait énormément. Et qu'il fallait... On était à la courant d'air. Quant à Bertrand, j'avais peur qu'il se casse véritablement. Mais la tenue, il faisait, il y avait, mais parce qu'il y avait avant, il faisait moins 11 avec un vent, et on était à moins 15. Et cette scène qui durait, on savait pas ce qu'on foutait là avec Christian, donc il fallait bien se réchauffer. Et le rire réchauffe beaucoup. Chose magnifique que je n'ai pas vue, je l'ai vue simplement au cinéma, c'est effectivement l'illumination de la boulangerie quand elle commence à s'ouvrir, et la naissance de la musique. Et Farida qui arrive avec son pas lourd et triste, et cette main qui se tend sur le croissant, et quand elle s'en va là-bas, c'est ralenti. C'est beau, mais en même temps c'est pathétique, c'est tout, mais... Chez nous, il y avait un moment, c'est beau, la beauté à moins 15.
Ça fait rire. Voilà, c'est un souvenir gay.
Voilà, la beauté ça à moins 15,
ça fait pas du tout rire. Alors, voilà. Bertrand ne rit pas du tout, alors intérieurement.
Il rit pas, il était gelé, congelé.
C'est rire le moins possible.
Ouais. Ça fait des rides.
Oui, il faut mieux être tendu.
Vous, l'amour avec Civitestu aussi, c'est une histoire d'amour. Alexandre Alamy aussi, c'est une histoire d'amour.
Oui, bien sûr. Vous dites toujours des histoires d'amour.
Et vous dites non, et vous dites pourtant les histoires d'amour, c'est chiant au cinéma. Je préfère les meurtres.
À filmer, c'est emmerdant. Écrire le scénario, c'est toujours. C'est une histoire d'amour, c'est emmerdant. Et tourner, moi j'ai tourné une fois un film où il y avait beaucoup d'histoires d'amour. C'était Trop belle pour toi, où il y avait que ça.
Oui.
Et j'avais des soirées, je me retrouvais dans ma chambre d'hôtel très déprimé parfois. Parce que c'était tout le temps est-ce qu'il va m'aimer, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va l'autre va partir, etc.
Non, mais pour Josiane, elle était très heureuse, elle était tout à fait amoureuse. Si bien que son mari de l'époque, comme il s'appelait, le frère de Richard B., Berry, il a dit mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux, toi, abruti? Il m'a dit, mais il y a Josiane qui parle beaucoup de toi. Je lui ai dit, mais c'est son problème, il nous fait faire des scènes d'amour. Ça va, il est amoureux. Elle est amoureuse, pourquoi? Oui, elle n'arrête pas de me parler de toi. Ben, je lui dis, barre-toi de là parce que ça va tomber, toi. Je t'assure qu'il m'a fait chier.
Il faut cloisonner, hein, la vraie vie et la vie de cinéma. C'est pas la même chose.
Non, mais c'est bon.
Non, mais parfois ça communique. Hein.
D'accord. Apparemment, il est aussi.
Dans la vie, on meurt, mais au cinéma, on ne meurt pas. Ça, c'est dans Qu'on voit exceptionnel. C'est
cinéma,
la différence
on
entre les deux.
C'est-à-dire que les acteurs restent éternellement sur les écrans.
Ouais.
C'est ça qui est beau.
Il faut toujours qu'il y ait un meurtre dans vos films aussi. Pas autant que dans Buffet froid, mais
non,
là,
pas
il fallait,
forcément.
Il
fallait... J'ai fait des films où il n'y a pas de meurtre.
Non, mais Buffet froid, il y en avait beaucoup. Là, il y en a un.
Ah, Buffet froid, 11 morts.
Oui. Il compte.
C'est beau, 11 morts.
Ah,
11.
L'écriture est une épreuve pour vous ou ça vient très naturellement?
Ça vient très naturellement, mais enfin, il faut quand même bosser. Hein. Mm. Ça vient très naturellement à condition de se mettre à la table tous les jours pendant un certain nombre d'heures.
Il y a une rigueur dans votre travail.
Voilà, et ça vient. Voilà. Mais c'est la partie la plus difficile quand on ne sait pas le faire et la plus facile quand on sait le faire. Et c'est là-dessus que tout repose.
Et vous allez découvrir ce que c'est que l'absence de rigueur en écriture avec Daniel Morin.
Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Daniel. Alors les amis, la pollution, on connaît la pollution de l'air, la pollution des sols, mais aussi d'autres genres de pollution sont à prendre en considération, mes amis. Il y a pollution de l'élocution et de la prononciation, une pollution qui ici nous est plutôt familière grâce à Guillermo Guise, Guillermo, le glyphosate de la langue. Guillermo Guise ne parle pas français, il éructe le français, il le postillonne, il le mâche, il le crache aux oreilles d'un public et de collègues bien patients, si vous voulez mon humble avis. Attends la prochaine présidentielle, petit fumier de Belge, quand les patriotes seront au pouvoir, tu vas voir si tu fais toujours ton malin à écorcher la langue de Molière, de Ronsard et de Pétain. Vous allez finir dans un Thalys, direction Molenbeek, toi et tes prémolaires blasphématoires. Bon, je me calme. Oh, puis merde, enfin, pourquoi est-ce que je me calmerais, hein? Ça finit par nous bousiller de nous calmer chaque fois qu'on s'emporte un peu. Réagir de façon violente, ça nous manque à nous, espèce sanguine qui, fut un temps, n'hésitait pas à péter la gueule de son voisin en cas de conflit. Et croyez-moi, une fois qu'on a pété la gueule de quelqu'un qui vous agace, on se sent vachement mieux. On est moins tendu, on se sent libéré, relax. Ça dit non à l'ulcère, à la dépression, à la frustration. Péter la gueule, ou bien, c'est encore mieux, tuer quelqu'un. Oui, le meurtre est pour des raisons idiotes de vivre ensemble, décrier. c'est nul. Quand tu es énervé, tu cognes. Quand tu es ivre de rage, tu dessoudes. Ça soulage. Et peut-être même qu'avec cette méthode de gestion du stress, on entrouvre la porte d'une éventuelle solution à la surpopulation de la Terre. Je vous rappelle qu'on est plus de 7 milliards. Et que sur ce nombre ahurissant, il y a un bon paquet de crétins qui ne méritent pas mieux qu'un coup de fusil ou bien une bonne strangulation. Oui, mes amis, la strangulation, c'est tellement bon. Et je ne suis pas le seul à le penser. Nagui, pour des raisons purement érotiques, ouais, est un fervent défenseur de cette pratique de démultiplication de l'orgasme par suffocation. Mais là, moi, je parle de la strangulation punitive et définitive, celle qui libère celui qui la pratique et fait taire celui qui la subit. Et Clayton Lucas est d'accord avec moi. Qui est Clayton Lucas? Eh bien, Clayton Lucas est un Américain de 25 ans qui, quand ça ne va pas, eh ben, ne dissimule pas son mal-être. Il agit. La preuve, il y a un peu plus d'une semaine, il faisait du stop. Un automobiliste s'arrête. Sympa. Les deux hommes tracent la route. Tout va bien. Sauf qu'à un moment, le conducteur commence à chanter des chants de Noël. Des trucs de base, genre Jingle Bell et autres bonbons sapins. Là, il se passe quoi dans la tête de Clayton? On sait pas bien. Ce qu'on subodore, c'est que Clayton a un problème avec Noël ou tout simplement avec les mecs qui chantent en conduisant, parce qu'au lieu de se boucher les oreilles, résigné, ou de supporter les mélodies de la sainte nativité qu'il déteste, eh bien, il laisse s'épancher son courroux, il étrangle le chanteur. Acte fou, acte cruel, acte barbare. Non, pas du tout. Acte de raison. Il en pouvait plus de ce con qui chantait une chanson de fin décembre en plein mois de mars. Il est intervenu. N'empêche que ça a marché. Une fois étranglé, le gars, eh ben, il avait moins envie de chanter, occupé qu'il était, essayer de remettre sa glotte en place. Et notre Clayton était soulagé. J'ai envie de dire que quasiment tout le monde y a trouvé son compte. Le chauffeur n'est pas mort. Et croyez-moi, cet épisode routier veut lui passer l'envie de chanter à contre-saison. Et notre Clayton n'a pas eu à supporter plus que de raison les vocalises en guirlandais du chanteur pilote. Malheureusement, aujourd'hui encore en 2019, la justice n'a toujours pas évolué. Notre Clayton comparaît tout à l'heure devant un tribunal. Allez, courage Clayton, moi je suis avec toi. À demain.
Merci Daniel Morin.
Avec Nagui.
Aujourd'hui au cinéma, convoi exceptionnel, Christian Clavier, Gérard Depardieu devant la caméra de Bertrand Blier, avec à leur côté également Farida Rawaj, Alex Lutz, Audrey Dana, Sylvie Testu, Alexandra Lamy, Louis Do de Lancin, Guy Marchand, Bouli Laners, enfin toute une série d'acteurs. Vous avez dit un jour que vous détestiez les acteurs, loin de là, il est clair que c'est au-delà du titre, il y a, on voit un amour, une admiration, vous leur servez un texte qui semble écrit, alors je ne sais pas si c'est à la virgule près ou au jeu près, c'est très précis, comme oui, écriture, Christian, vous qui l'avez découvert, cette écriture.
Très précis, oui. Oui.
Tout à l'heure, on parlait d'improvisation, mais finalement, il y en a très peu, pour résumer.
Alors, quand ils le demandent, il y en a, mais sinon, il faut suivre.
J'ai le souvenir d'une phrase improvisée par Gérard, je crois que c'est une des seules où il est, avant, c'est sans les valseuses. Il y a une scène de cul très importante avec Miu Miu et Gérard, qui en a marre de n'arriver à aucun résultat, se lève et dit « Je préfère au moins aller pisser. Au moins, je sentirai quelque chose. »
Ça, c'est de l'impro.
J'ai eu les larmes et je lui ai dit « On garde ta phrase. »
Des excuses à présenter,
oh, Daniel. Bien sûr, désolé pour Coluche, Fabrice Lucchini, François Hollande, Michel Blanc, Sciences Po, Les Chats, Les Poufs et tous les autres mythes qui ont été malmenés par notre trio. C'est vrai que ça fait un beau tableau de chasse. Désolé pour Bourville qui a découvert ce matin qu'il était aussi âgé que Christian Clavier. À moins d'être désolé pour Lila qui a découvert ce matin que Bourville n'était plus vivant. Ah ouais, chacun ses chagrins, les amis. Vrai. Désolé pour vous, Bertrand Blier, qui a découvert qu'il a fait un film sur l'histoire de deux mecs avec deux mecs qui finalement ne sont pas d'accord avec lui. Compliqué le dossier. Et désolé pour Christian Clavier. Je viens d'apprendre que France Inter voulait vous consacrer une semaine spéciale. Vous allez être invité à toutes les émissions.
Yeah, voilà, c'est bien ça.
Vous aurez même le droit de déjeuner à la cantine de Radio France.
Génial.
Et là, je sens que génial, ça va vous plaire.
C'est bien, tu l'as, ta semaine.
Merci Bertrand Blier.
Merci à France.
Merde pour la sortie France aujourd'hui de Convoi bon exceptionnel. Merci Gérard Depardieu.
Bon appétit.
Merci
bon
Christian Clavier. Bon bon demain, votre copine Catherine Fraud sera notre invitée à ce micro.
Je l'embrasse.
J'ai un couscous.
Nous l'embrasserons pour vous. Tout de suite, des carnets de campagne, on Philippe Bertrand.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis.
Oui.
Bonjour. Eh, pas évident ce matin, on m'avait prévenu, passage d'un convoi exceptionnel, j'ai pris une déviation. Et puis j'avance avec mon motoculteur en plus, vous imaginez, c'est lent. En tout cas, j'ai pu vous entendre, c'était vachement bien. Puis quelle filmographie, Bertrand Blier. Ah, je suis impressionné.
Respect.
Par contre, les deux autres invités, c'était qui?
Des jeunes prometteurs.
Ah oui, des débutants, mais on y croit beaucoup.
Bon, accrochez-vous.
Oui.
Salut les amis.
Ciao Philippe.
Ciao.